La fête du Christ-Roi, eh bien, marque la fin de l'année liturgique. Bientôt, dimanche prochain, plus exactement, eh bien, c'est le carême. C'est l'Avent. Mais l'Avent de l'année prochaine. La fête du Christ-Roi, elle a été, c'est une fête récente, c'est une fête moderne. Elle a été instituée par Pie XI, c'était en 1925. Et elle avait une connotation plus limitée que celle que nous connaissons. C'était, le pape insistait sur le fait que les nations devaient obéir aux lois du Christ. C'était la morale chrétienne que le pape voulait voir comme guide pour les valeurs des nations. Le Concile Vatican II, lui, a élargi la fête, parce que d'abord, les nations, malheureusement, se fichait totalement de ce que le pape pouvait dire. Et puis, secondairement, pour donner le véritable souffle à cette fête, eh bien, l'Église l'a étendue vraiment à tout l'univers, le roi de l'univers. Et c'est le roi avec ses attributs, vous savez, de Christ, en tant que Christ, en tant que Messie, a trois grands attributs. Il est roi, il est prêtre, il est prophète. Il récapitule tout cela. Et les prophètes, les rois, les prêtres dépendent de lui. Donc ça couvre tout ce que le monde spirituel peut engendrer. Alors, théologiquement maintenant, cette fête du Christ-Roi, c'est un royaume d'ordre spirituel. Et c'est ce que l'Église, avec Vatican II, a souligné fortement. On est toujours tenté d'essayer de reproduire la Christianitas du Moyen-Âge, ce moment unique qui a duré plusieurs siècles, hein, mais unique quand même. Ça a été le sommet de ce que l'Antiquité construisait petit à petit. On n'a jamais retrouvé. La Christianitas, c'était vraiment ce sommet d'une vie collective, d'une vie communautaire, dédiée au Christ, fondée sur ses lois. Mais cela, il ne faut pas rêver, on est dans une ère complètement différente. On est dans une ère où les valeurs du monde dominent et non pas celles de l'Évangile. On le voit tout de suite avec le thème de la royauté dans l'Évangile, dans les Évangiles. Où apparaît le thème de la royauté du Christ? C'est pendant la Passion. C'est là que les païens proclament le Christ roi. Ah, pour le tuer, pour se moquer de lui, bien sûr. Mais c'est là qu'il est proclamé roi. Et tous ses ennemis le proclament roi. Et à la fin des temps, ils sont bien obligés de constater qu'il est vraiment leur roi. La Passion, c'est... Sa royauté devient un objet de dérision. Pilate lui donne le titre de roi des Juifs. Avant de comparaître devant Pilate, les foules de ses disciples, les foules en faveur du Christ, l'acclamaient comme étant le roi d'Israël. Vous voyez, les deux expressions à la fois sont synonymes et à la fois s'opposent. De même que Jésus s'oppose à Barabbas, et pourtant Barabbas, ça veut dire le fils du Père, littéralement. Mais ça n'a rien à voir, bien évidemment. Le roi des Juifs, c'est une notion sociale. C'est quelqu'un qui prépare un coup d'État pour prendre le pouvoir dans son pays. Le roi d'Israël, c'est une notion théologique. C'est celui qui a forgé Israël, qui l'a fait sortir d'Égypte, qui l'a établi sur la terre promise. C'est celui qui rend sacrée cette vie sociale qui, sans lui, eh bien, est complètement... matériel. La vie sociale ne peut rien être d'autre sans cette royauté spirituelle du Christ. Le roi d'Israël, au début de l'évangile de Jean, Nathanaël, qui est interpellé par Jésus, et Jésus lui dit, quand tu étais dans l'intimité, je t'ai vu méditer l'écriture sous le figuier. Et alors Nathanaël dit, tu es vraiment le roi d'Israël. Il reconnaît cette royauté d'ordre spirituel tout de suite. Mais il faut être croyant pour ça. Tandis que si on veut l'appliquer à des nations qui n'ont pas la foi, eh bien ça devient ce que à ce que deviennent les droits de l'homme. Les droits de l'homme, Jean-Paul II a beaucoup combattu pour les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est bien sûr un dérivé de l'Évangile, des valeurs de l'Évangile, mais aussi parce que, pour ceux qui ne croient pas, c'était une approche profane de la morale religieuse. Mais voyez ce que les droits de l'homme deviennent dès qu'il y a de l'argent en jeu. Voyez ce que les droits de l'homme deviennent dès qu'il y a du sexe en jeu, etc., etc. Il faut la foi pour véritablement proclamer le Christ comme roi et ses valeurs comme étant des ordres. Donc, tenter d'établir une société qui ne veut pas recevoir le Christ, comme les Romains de son temps, eh bien, ça ne sert à rien. Comment amener la royauté du Christ sans que les porcs ne piétinent les perles magnifiques que nous leur tendrons? C'est un royaume qui n'est pas de ce monde, c'est ce que Jésus dit à Pilate. Le monde, lui, ben, il est sous la souveraineté d'un autre monarque, le prince de ce monde. Et le prince, c'est Jésus qui me dit, c'est pas moi. Et le prince de ce monde, lui, a une royauté qui passera. Le Christ, lui, a une royauté qui ne passera pas. Mais quand on est sous le joug du prince de ce monde, eh bien, on cultive des espérances qui sont uniquement terrestres. Et ces espérances, Jésus nous le dit dans ce passage de Matthieu, conduisent à la désespérance et une désespérance éternelle. C'est là le critère du jugement. Quand on recherche le bonheur au point d'en faire une idole, eh bien, forcément, on passe à côté de l'amour fraternel. C'est inévitable. Parce que le bonheur, c'est toujours pour soi, c'est pas pour les autres. Le bonheur, l'idole du bonheur, c'est moi, moi, moi. Et il faut aimer. C'est le culte, le bonheur, vous voyez, ça conduit toujours à la perdition. On entend ça partout. Ah ben, je veux être heureux, je recherche le bonheur, je cherche... C'est vraiment un gouffre béant, une trappe, une embuscade. Le bonheur, ça ne fait pas partie des vertus évangéliques. Ça fait partie de l'autre monde, du paradis, ce paradis céleste que Jésus nous promet. Mais ça ne fait pas partie ni de la foi, ni de l'espérance, ni de la charité. Alors, les fruits délicieux et éternels produiront le bonheur, bien évidemment. Mais ce n'est pas une vertu théologale, le bonheur. Ce n'est même pas une vertu cardinale, ce n'est pas une vertu tout court. Le bonheur, c'est un idéal de plénitude, mais qui doit passer par le rasoir de la croix. Et c'est ça, la royauté du Christ, quand on la met dans nos vies. Mesurer le bonheur, comme Jésus l'a fait pour lui-même, à l'aune de la volonté de Dieu. Et ça conduit vraiment à l'amour fraternel, parce que ça brise cette espèce d'ego qui se prend pour le roi, là, au centre de nous-mêmes. Ça le brise, ça lui brise les reins, et ça l'enlève du trône qui est réservé à Dieu dans notre âme. Là, le Christ peut siéger. La royauté, le monde la rejette, comme au moment de l'Ecce Homo, vous savez, cet épisode où Pilate présente Jésus habillé en roi de carnaval, avec le manteau rouge, la couronne d'épines, le roseau à la main. Il le fait asseoir sur son propre siège de monarque. Et il le présente comme le roi des Juifs. « Vais-je crucifier votre roi ?» Et la population qui était alors présente, eh bien, choisit cette vision du roi faible qu'on rejette. Cette vision du royaume des cieux qui n'est rien qu'un carnaval et une grande farce, selon les yeux du monde. Non, vraiment, véritablement, seuls souffrent et demeurent dignes les croyants lorsque la royauté du Christ est ainsi méprisée. Nous vivons des jours où la royauté du Christ est, comme au temps de Pilate, est complètement raillée de toutes parts. Le Christ se présente dans cette parabole comme étant le juge des âmes, des vivants et des morts. Et là, dans l'Apocalypse, l'image du jugement est omniprésente, là aussi, et on voit la royauté du Christ qui s'exerce à chaque page de ce texte. C'est une sorte de jugement, de discernement qui conduit au jugement. C'est ça l'Apocalypse. Dieu met à l'épreuve, à la fin des temps, chacun, et ça conduit à une sentence, ou pour la vie, ou pour la mort. Et il combat les nations qui sont coalisées contre lui, dit le texte, avec l'épée de sa bouche. Et l'épée de sa bouche, c'est la vérité. La vérité confondra tous les mensonges. On ne pourra plus se retrancher derrière des faux-semblants, derrière des explications, des excuses. On ne pourra plus, parce que la vérité nous confondra tous en matière de justice, de péché. Mais la vérité nous sauvera, parce que là où elle habite en nous, eh bien, elle témoignera pour nous. Donc l'épée de la bouche, c'est la vérité. Le jugement du roi, c'est un jugement par la vérité dans l'Apocalypse. Ici, c'est par l'amour fraternel. Alors, est-ce que ça s'oppose ? Ben non, ça ne s'oppose pas, bien sûr. Qu'est-ce que Matthieu dit ici ? C'est que c'est un jugement fondé sur l'amour du prochain, donc un jugement qui se fonde sur un critère aussi universel que la vérité, mais qui n'a pas besoin d'une révélation, parce que chacun, dans son cœur, qu'il soit croyant ou incroyant, baptisé ou non baptisé, ayant vécu il y a 3000 ans ou qui devra vivre dans 1000 autres, quel que soit le monde dans lequel il est immergé, chaque homme a inscrit en son cœur un discernement, une capacité de discerner entre le bien et le mal. Et on voit tout de suite lorsqu'on manque à l'amour fraternel, on le sait tous. Il n'y a pas besoin de faire de longues études pour ça. Celui qui a faim, celui qui a soif, l'étranger, celui qui est nu, malade ou en prison, on sait bien ce que ça veut dire. On sait aussi que c'est en fonction des circonstances, et c'est un discernement de conscience. C'est pas automatique non plus. C'est pas des commandements que Jésus donne ici dans cette parabole. C'est des directions. Et ces directions doivent conduire, eh bien, pour nous, à formuler des méthodes, des actes à réaliser. Le paradis, c'est la reconnaissance du royaume, de la royauté du Christ. Voilà ce qui ouvre le paradis. L'invité discourtois de la parabole, vous savez, il avait été invité, comme beaucoup d'autres, parce que ceux qui étaient appelés avaient refusé. Et il passe la porte du royaume uniquement avec ce critère de Matthieu 25. Simplement, il a voulu aider celui qui avait faim, celui qui avait soif, à droite, à gauche, à tel ou tel moment de son existence. Dieu se suffit de peu pour nous sauver. Il faut que nous écoutions notre conscience. Elle nous parle, elle nous dirige. Mais voilà, il entre dans ce royaume, comme tous les autres qui sont entrés avec lui, dans cette salle de noces. Mais il n'a pas l'habit de noces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas la royauté du Christ. Certes, il a accompli envers le prochain certains actes méritoires. Mais il refuse la royauté de se soumettre à la royauté d'un Dieu qui l'a créé et qui lui demande des comptes. Celui-là aussi, nonobstant quelques bonnes actions, se retrouve dans l'univers de la perdition. Voilà ce que dit Jésus. C'est l'exigence divine, reconnaître sa royauté, c'est cela. C'est pas tant essayer de l'inscrire dans une constitution et souffrir des multiples manières dont la loi fondée sur la vérité est contourné sans cesse. Il vaut mieux à la limite que que les nations se gouvernent elles-mêmes pour se rendre compte, eh bien, qu'elles ne sont pas construites sur le roc, qu'elles ne sont pas édifiées sur le dur de la vérité, sur cette dureté que rien ne peut mettre en miettes, mais elles se construisent sur du sable. Voilà, il y a le jugement de l'histoire, donc, qui permet aux hommes de discerner les vraies valeurs, et il y a le jugement de Dieu, ce jour grand et redoutable. Voilà la royauté du Christ. Il est roi de l'univers. Alors, louons-le au cours de cette Eucharistie, accueillons-le comme les foules de Jérusalem accueillaient Jésus en son temps. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël.